Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Voilà, je suis là à Nîmes et je rencontre Bernard Surugue. Je suis également en compagnie de Gérard Fitoussi, qui est président de l'European Society of Hypnosis, et Bernard Surugue, donc, qui est ethnomusicologue. Tu te présenteras de toute façon. Donc là, nous venons, comme vous, j'espère, nous venons de regarder Les Tambours d'Avant, un film de Jean Rouch, qui est un plan séquence où il y a des rituels qui sont proches de l'hypnose. Voilà. Bon, là maintenant, je vais simplement me tourner vers Bernard Surugue. Et Gérard fait aussi là. Donc Bernard Surugue, tu dis deux mots sur toi, ou peut-être du film, tout simplement, là, maintenant. Voilà. Bonjour Bernard.
Bonjour tout le monde. C'est là ? Oui. Bonjour tout le monde. Voilà, me présenter, c'est surtout que j'ai ce film-là me rappelle justement ma rencontre avec Jean Rouch. J'ai rencontré Jean Rouch quand j'avais 20 ans. J'étais jeune professeur de musique au lycée du Niger. Et j'interrompais des études d'ingénieur. Et Rouch, quand je l'ai rencontré, il m'a dit puisque tu connais la musique et puisque tu connais les mathématiques, tu vas faire de l'ethnomusicologie. Et je ne connaissais pas le terme, mais l'ethnomusicologie consistait à travailler sur les musiques qu'on vient d'entendre. Et plus spécialement, il m'a dit tu vas décrire le violon monocorde Godier que l'on voit dans le film et qui est en fait la colonne vertébrale de tout ce genre de rituel. Voilà, donc c'est une organisation que j'ai découvert comme ça. Et c'est vrai que je suis entré là-dedans, je dirais presque naturellement. Et on a suivi dans ce village et puis dans beaucoup d'autres, à peu près pendant des années, on a suivi tous les rituels qui se posaient au fil de la vie des gens de la région de Niamey, ce qu'on appelle le Zermaganda. C'est le peuple, c'est la culture Sonray ou Germa, et qui détient des valeurs qui sont tout à fait remarquables. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire
qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Gérard, tu avais posé une question.
Oui, moi j'interviens un peu comme un néophyte dans ce domaine, et en voyant ce film, il y a à un moment donné, il y a un des personnages ou le narrateur qui parle du sorcier qui n'est pas comme le marabout, et je me suis dit tiens, mais le sorcier marabout, dans mon esprit c'était un peu la même chose. Et est-ce que éventuellement Bernard, tu pourrais nous en dire un peu plus ou...
Oui, alors sorcier, bon, c'est pas un terme qu'on utilise tellement, mais le maraboutisme, ça incarne en fait la prégnance islamique qui règne dans tous ces pays-là, mais qui s'accommode, le culte traditionnel s'accommode très bien de cette superposition. Voilà, on peut être un Eladj et puis pratiquer quand même ce genre de rituel sans que ça présente d'inconvénients majeurs. Alors au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trop d'informations, c'est d'un pays où il y a beaucoup de désordres qui se créent. Je n'ai pas d'informations récentes sur la durabilité de ce genre de rituel. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est que Rouch ait eu le génie de mettre sur la pellicule des éléments comme ça, des éléments de culture très complets, grâce au cinéma, le cinéma permettant justement de mesurer, de fixer chaque instant sonore et visuel de ce que nous on appelait un opéra total, parce qu'il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a toute une ambiance, il y a des enfants qui regardent, il y a un public. C'est comme un opéra totale. Voilà,
c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que c'était un chef-d'œuvre.
Ah, pas pour moi, oui. Ce film-là est une prouesse incroyable, puisque c'est probablement le premier plan séquence d'un film. Il y a une prouesse technique, mais il y a surtout une prouesse artistique et intellectuelle. Et c'est ça que savait faire Jean Rouch mieux que personne, d'être capable. Il n'y a aucune coupure dans ce film. La caméra démarre avec un magasin de 120 mètres, ça veut dire à peu près un crédit temporel de 11 minutes. Et il construit son histoire en suivant ce qui va se passer sous ses yeux, et ça se termine au moment où la lumière tombe, et il évoque justement le regard des enfants, c'est-à-dire le futur. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que le regard des enfants? Voilà, qu'est-ce que ça interroge justement le futur de ce genre de manifestation. Voilà.
Très bien. Et alors, on pourrait faire un lien éventuellement avec tous ces rituels, la transhypnotique, la transe de façon générale, et qui est là, qui est des gens qui sont agités, mais qui sont effectivement, enfin, qui sont pas immobiles comme on imagine le patient hypnotisé. Hein. Mais en revanche, là, on voit des gens qui s'agitent, mais pour autant, on se rend bien compte qu'il se passe autre chose. Il y a quelque chose qui est certes naturel, mais qui est un petit peu, qui évoque une autre attitude vis-à-vis des uns et des autres, dans un objectif. Dans un objectif, voilà.
Oui, oui. Alors, ce qui fait partie de ce théâtre-là, c'est qu'on voit bien que dès qu'une transe monte, un cheval, enfin, qu'un personnage devient le cheval d'un dieu, d'un esprit, quoi, tout de suite, il y a ce que l'on appelle les femmes tranquilles qui viennent entourer le cheval possédé, qui mettent une écharpe autour des reins et puis qui le calme, enfin qui l'encadre en tout cas la transe pour que ça dégénère pas dans tous les sens. Et puis il y a le zima, c'est le prêtre qui coordonne tout ça. Ça peut être le violoniste justement qui sait réguler tout ce processus. Et ensuite, on arrive jusqu'à l'induction d'un dialogue entre les esprits et les gens présents qui sont là. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'il lui dit, à un moment donné, on veut de la viande, la récolte n'a pas été bonne, c'est tourné au mois de mars, c'est-à-dire que c'est le commencement de la fin de... Les greniers commencent à se vider et on s'inquiète du futur. Donc on aura besoin de récolte et il faudra qu'il pleuve dans les mois qui suivent, à partir du mois de juin, pour la saison des pluies. Donc c'est cette interrogation permanente et ce risque qui est vécu par les villageois. Il faut avoir de la nourriture, quoi. Qu'est-ce qui garantit la nourriture? Quelles sont les conditionnalités pour que la nourriture soit abondante, que l'on puisse remplir les greniers et puis tenir jusqu'à la saison des pluies, qui sera un nouveau cycle qui commencera et qui permettra de cultiver, etc. etc. Voilà.
Et là, tu viens d'évoquer un dialogue. Tu as un dialogue, oui, entre plusieurs personnes et d'ailleurs avec la musique.
Oui.
Alors ça, c'est intéressant parce que quand on fait une séance d'hypnose, on peut l'observer comme un dialogue entre deux personnes et on met pas de musique, encore qu'il y a certains qui font de l'hypnose en mettant de la musique. Enfin voilà, je veux pas faire de parallèle avec ça, mais là il y a un dialogue donc entre les hommes dont certains font de la musique.
Absolument. Et justement le conducteur, c'est la musique. Et D'accord. Et plus que la musique, c'est la dimension mélodique. C'est-à-dire que il y a les tambours, là en l'occurrence les tambours d'avant qui sont des tambours, on dit archaïques parce qu'ils ne sont plus tellement usités. Il y a d'autres formes de tambours qui sont très intéressantes aussi, mais c'est un autre sujet. Mais il y a toujours, dans tous les cas, il y a toujours ce violon qui est en réalité une vielle monocorde, qui est probablement l'ancêtre de tous les violons Et ça, ça a été mon sujet de travail, c'est toujours mon sujet de travail. Et c'est un instrument qui est absolument extraordinaire parce qu'il a des performances acoustiques qui tiennent largement la route par rapport aux grandes techniques des luthiers occidentaux, les Stradivarius, etc., le violon de Savard. On a fait des mesures dans des laboratoires pour voir quelles étaient les performances de ces instruments. Et bien cet instrument qui a l'air tout simple et qui est tout simple, mais il contient tout le génie humain qui permet de fabriquer des choses, de maîtriser le son. Et non seulement c'est un instrument qui a une capacité sonore tout à fait extraordinaire, on l'entend à des kilomètres, on entend, quand on se balade dans la brousse comme ça, on entend que dans tel village, ah ben, il y a un holei, ça s'appelle des holei. Et puis, par ailleurs, il y a une écriture orale. C'est-à-dire qu'il y a un savoir oral, il y a une liturgie qui fait que le musicien, le violoniste, quand il voit qu'un cheval possédé est possédé par tel ou tel génie, il va le jouer la musique de ce génie-là, et pas une autre. Il peut même y avoir des devises qui sont prononcées par les imams, par les prêtres, par les agents du culte ou les soignants. On peut considérer que ce sont des soignants. Ce sont des soignants, mais ils ont un statut spécifique. Et donc, toute cette organisation-là, spirituelle, elle est dans un savoir où tous ces génies qui sont très nombreux, toutes ces familles de génies, on les retrouve grâce à la musique. On les reconnaît tout de suite grâce à la musique qui est jouée et qui est une sorte de conducteur, nous on dirait thérapeutique, pour amener le cheval possédé à induire ce dialogue qu'il y a entre les souffrances, donc, qui sont d'ordre spirituel, qui sont ressenties, en tout cas les souffrances ressenties, pour essayer de les ressortir, de les exprimer et du coup de soulager des souffrances qui sont bien réelles.
D'accord. Et donc d'accord, c'est intéressant parce que donc la musique est un conducteur.
Ah, totalement. Oui.
Voilà. Oui. Et les hommes, alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les hommes en face, donc il y a des hommes et des femmes, et donc les femmes, c'est plutôt parce qu'on pourrait dire c'est l'alliance. C'est parce que tu m'as dit les femmes étaient plutôt dans la douceur pour apaiser certaines
femmes tranquilles.
Voilà, les femmes tranquilles et les hommes miment des génies, enfin voilà. Il y a donc pas un paradoxe mais une alliance de deux personnes qui jouent des personnages très différents et c'est cette alliance avec la musique qui fait bouger, enfin voilà.
Ben, c'est elle qui orchestre tout ça, quoi. Enfin, qui rassemble toutes ces dimensions-là. Mais les femmes tranquilles, il y a aussi des hommes tranquilles. Hein.
D'accord.
D'accord, ok. c'est vrai que les musiciens, c'est généralement je ne crois pas avoir rencontré de femmes musiciennes. C'est une bonne question, il faudrait que je creuse. Voilà. Mais ce qui est fabuleux, enfin fabuleux, c'est pas fabuleux, c'est du réel, hein, c'est du tous les jours, c'est du quotidien, quoi, c'est quelque chose de... Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que, encore une fois, il y a un public, quoi, les jeunes oreilles, les jeunes yeux intègrent ces pratiques-là, quoi, c'est pas... Et quand on en parle avec... voilà, c'est quelque chose qui plaît, c'est vraiment quelque chose qui fonde la société.
D'accord.
La culture sociale, quoi, c'est très fort.
D'accord. Ok. Avec une forme, nous, qui est très inhabituelle, mais il y a quelque chose qui est quand même qui s'approche de l'hypnose, où on demande à quelqu'un de cheminer quelque part à l'intérieur de soi, enfin de cheminer. Et de mobiliser, enfin, on imagine que ça mobilise leurs ressources. Là, c'est pareil, on
est
dans la mobilisation de ressources.
Exactement ça, voilà. Oui. Voilà. Voilà, et c'est induit par Ça peut être le son qui induit ça, ça peut être toutes sortes de choses. À un moment donné, on voit dans la foule une possession qui naît, quoi, qui se déclenche. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Et puis je voudrais préciser que beaucoup de gens pensent que ça se produit grâce à des produits qui pourraient être consommés, genre hallucinogènes ou je ne sais pas quoi, ça n'est pas le cas du tout.
D'accord.
Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de substance, et il n'y a pas de masque. C'est une société sans masque et sans substance hallucinogène. C'est vraiment profond, quoi. C'est dans la structure, c'est vraiment dans la structure de la pensée, du système de pensée. Du Zermaganda.
D'accord, d'accord. Très bien. Tu as des questions à poser ?
Oui, moi c'est Gérard Fitoussi, donc c'est plus sur le film en lui-même. J'aurais bien aimé que tu nous donnes un peu le contexte de ce film, c'est-à-dire qu'est-ce qui a amené Jean Rouch à débarquer là avec sa caméra ce jour-là, à ce moment-là. Et j'ai eu le sentiment, enfin c'est pas un sentiment, c'est à la fois d'une certaine pudeur et un côté un peu voyeur. Alors pourquoi voyeur ? Ben parce qu'il nous montre ce qui se passe, hein, et puis pudeur parce qu'en fait ça s'arrête au moment où j'ai envie de dire le plus important va se passer, mais boum, ça s'arrête à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je parle de voyeur et de pudeur en même temps.
Alors voyeur. Je comprends qu'on peut, mais en l'occurrence, dans l'approche ethnographique, disons, Rouch là, enfin dans ce cas-là, puis dans beaucoup d'autres cas, il était tellement intégré, accepté par les villageois, qu'il a été demandé, on lui a demandé de mettre en boîte. Ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment formidable qu'il ait pu le faire, parce que, d'abord parce qu'on peut en parler maintenant, et puis c'est des choses qui se passent, qui sont impalpables, c'est des phénomènes qui sont fluides, c'est des successions d'instants, mais chaque instant qui passe est déjà terminé quand l'autre arrive. Et du coup, pour la description de ce genre de choses, assez compliqué, enfin assez complexe, le cinéma est un recours formidable. Et du coup, Rouch, qui était d'abord un ethnographe, mais il a utilisé le cinématographe pour pouvoir mieux rendre compte de ce qu'il étudiait, quoi. Mais il l'étudiait en partage avec ceux qui le provoquaient.
D'accord.
Tout ça, c'est des notions qui sont rares, finalement. Alors, pudeur... Je pense qu'il était dans la pudeur et l'humilité face à ce qui se passait là, et il prenait toutes les précautions pour ne pas être un voyeur, surtout pas, ne pas faire quoi que ce soit sans l'adhésion des personnes à qui la chose appartient. Mmh, ça leur appartient, ça appartient, et ça on n'a pas le droit de dire. Moi, c'est pareil, quand j'ai commencé à travailler sur le violon, j'ai été initié par un maître. Il y a des choses que je ne dirai jamais, puis d'autres choses que je pourrais comprendre. Mais ça reste... pour moi, j'ai un respect mais total notamment de la personne, de tout ce monde-là, mais surtout de la personne qui m'a initié, le grand violoniste Amilou Yaye, qui était mon maître et qui m'a initié. Moi, je le range aux côtés de Vladimir Rostropovitch quand il joue sur le mur de Berlin avec son violoncelle. C'est du même ordre. Et quand je vois, je l'ai filmé dans un autre film, Amilou Yaye invoquer les dieux au bord du fleuve Niger, c'est pareil, c'est du même ordre. C'est l'interpellation des choses qu'on ne sait pas expliquer. Mais c'est la musique qui permet de porter l'âme, quoi, de l'âme des, l'âme des choses, quoi, de ces choses-là.
Et à chaque fois, ce que veut dire Gérard, C'est qu'en fait, à chaque fois, il n'y a pas une mise en scène à laquelle Jean Rouch serait intervenu. En revanche, il y a une mise en scène entre eux, enfin, voilà. Mais lui, il ne l'a que pour décrire et il est invité.
Exactement. Pour filmer ce qui va se passer, s'il se passe quelque chose, qu'il ne se passe rien, il ne se passera rien. Et du coup, à travers cette approche-là qui est très respectueuse des gens et de la personnalité des gens, il a toujours fait, dans sa production de films, qui est considérable, c'est des centaines de films, ce qu'il appelait le feedback. C'est-à-dire qu'avant de publier quoi que ce soit, on présente le travail qu'on a fait aux gens qu'on a filmés.
Oui, j'allais te demander.
Et ça, c'est une précaution éthique, mais cardinale. On n'a pas le droit de faire autrement, quoi. Et ça, il l'a toujours pratiqué et il l'a toujours enseigné. Et puis moi, je l'ai enseigné aussi quand j'ai été en position d'enseigner. C'est quelque chose d'excessivement fondamental. Et à travers ces précautions-là, donc il fallait aussi trouver des moyens pour filmer. À l'époque où Rouch a commencé le cinéma, il travaillait avec une caméra qu'il avait achetée au surplus américain, une Bell & Howell, qui se remontait un peu comme un moulin à café, là, qui fait un bruit de moulin à café, et qui se remonte, et on pouvait mettre des magasins de 30 mètres dedans. Ça veut dire qu'on avait un crédit de 2 minutes et demie à peu près. Bon. Là, c'est une autre étape qui s'est produite, il disait une chose que je peux dire quand même, si on a le temps, c'est pendant qu'il remontait sa caméra, moulin à café, là, il disait, bon, ben, au moins, ça me permet de réfléchir. Là, je viens de tourner ça dans tel angle, en remontant sa caméra. Et il dit, bon, ben après, je vais me mettre ici, comme ça, je pourrai raccorder, etc. Bon. Et puis après, il y a eu des caméras électriques qui sont arrivées, et puis des caméras dites auto-blimpées, ça veut dire silencieuses, d'éclairs coûtants, enfin, voilà. Et on a reçu des caméras comme ça, et là c'était justement... Alors c'est des caméras qui permettent d'avoir un magasin de 120 mètres, autrement dit, une autonomie de 11 minutes à peu près, quoi, si on considère le début et la fin qui sont perdus, mais on peut aller jusqu'à 12 minutes si on se débrouille bien. Et là, il a utilisé pour la première fois ce type de caméra-là, avec un Moussa Hamidou qui était au son, avec un Agra. Et il a fait un plan séquence, c'est-à-dire il est entré avec cette intention de, c'est même pas de la suggestion, c'est une intention de filmer ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, c'est absolument remarquable. Et tout ça a donné naissance à une manière de filmer qui a été, dont s'est emparée la nouvelle vague.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Du cinéma français. Et les jeunes, et tous ces, les Godard, les Rivette, les Chabrol, ont découvert cet individu un peu particulier qui présentait ses films à la Cinémathèque et qui les commentait en direct. C'est comme ça qu'ils ont découvert à la fois l'approche de Jean Rouch, et puis qu'ils se sont emparés, de ce savoir filmer, très particulier, qui était une révolution, en fait. Et, de fait, Rouch est le père fondateur du cinéma de la Nouvelle Vague.
Oui, tout à fait.
À travers cette manière de filmer, de respecter les gens, de dire à un comédien, bon, ben, c'est pas uniquement un contrat avec des sous, c'est pas ça. Le comédien devient un acteur, voire un réalisateur. Dans Moins Noir, qui est un autre film, qui est peut-être une autre discussion, Oumar Ouganda, qui devient le héros, qui n'a jamais fait de cinéma, qui n'a jamais été acteur, mais qui devient un acteur et un acteur actif, qui raconte son histoire, qui la vit, et Rouch a le génie de le suivre. Il a inspiré Godard pour faire À bout de souffle. D'accord. Ça veut dire qu'il faut mettre en parallèle Jean-Paul Belmondo, qui a bien joué le jeu, et puis Oumar Ouganda. Oumar Ouganda est devenu réalisateur, d'ailleurs, un réalisateur de grande qualité. Et Belmondo, quand il a tourné À bout de souffle, d'abord il ne voulait pas le faire, mais il l'a fait en ayant énormément d'initiatives. Donc il s'est joué lui, quoi.
D'accord.
Voilà. Oui. Et ça, c'est très, 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 très fort. D'abord, ça donne une ambiance de tournage bien plus intéressante. Maintenant, on considère que c'est à peu près... normal de faire comme ça, mais il faut voir d'où ça vient. Et ça donne une... C'est beaucoup plus respectueux des gens, quoi.
Très bien, d'accord. Ok, bon, bah écoute, c'était très intéressant. Est-ce que tu as une question à poser, Gérard ?
J'en aurais plein de questions. Moi, j'ai trouvé intéressant la filiation entre Jean Rouch et Nouvelle Vague. C'est la fécondité d'une œuvre au-delà de ce que l'on peut imaginer. Je veux dire, ça a donné un apport au cinéma, j'ai envie de dire classique, qui n'est pas classique, mais aussi, alors qu'on était parti d'un quelque chose de scientifique, d'ethnographique, bon, c'est la fécondité d'une œuvre, des choses auxquelles on ne pensait pas, et j'aurais aimé, peut-être que, j'aurais aimé avoir ton sentiment sur la postérité du travail de Jean Rouch, et sur ce qu'il représente aujourd'hui pour les plus jeunes générations d'ethno-musiciens, d'ethnographes. Comment ils se nourrissent de ce travail, si tu peux nous donner quelques éléments, même si on est un peu loin peut-être de l'hypnose.
Non, mais c'est bien, c'est l'occasion. Ouais,
c'est l'occasion. Oui. C'est vrai que le crayon ethnographique a été changé avec une caméra. C'est déjà ça la grande révolution. Tout le monde maintenant filme. Rouch est mort maintenant, mais tout le monde a un téléphone portable. Accessoirement, on peut téléphoner avec, mais je revois tout le monde filmer avec son téléphone portable. Ça veut dire que c'est complètement démocratisé. C'est un instrument un outil. Alors, c'est presque trop, parce que ce que j'exprimais quand il y avait la caméra à ressort et que le temps de remonter, bah, ça permettait de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de filmer n'importe quoi. Et ce que je veux dire, dans l'héritage de Rouch, réfléchir, c'est le cerveau, quoi. Le cerveau qui va dans l'œil de la caméra, ou le contraire, l'œil de la caméra qui va dans le cerveau du réalisateur ou du jeune réalisateur, ben c'est d'avoir une réflexion, quoi, de réfléchir à ce qu'on fait, et puis d'avoir un respect, mais infini, pour les gens qu'on filme. C'est pas du tout universel, hein. Mais c'est très important. Les gens, ils viennent filmer n'importe qui, n'importe comment, c'est pas bien. C'est du vol, c'est quelque chose, c'est pas normal. Mais Rouch laisse cet héritage-là, sur la notion de feedback, sur la nécessité de filmer tout ce qui est intéressant, mais de le faire dans le respect de certaines règles, et puis de ne pas chercher à le faire pour du profit. Rouch, tout son désir, c'était que ses films soient vus, partagés, diffusés, et qu'on puisse discuter autour. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, respect.
Très bien, enfin, c'est une superbe conclusion. En tout cas, merci à Gérard tous d'être là. Puis surtout, merci à toi, Bernard. Donc, je veux faire un petit résumé, où j'en mettrai un petit peu... plus sur qui tu es, on mettra un petit peu de ta biographie. Il y a des films, il y a d'autres films à regarder, parce que là, c'était un film de Jean Rouch. Mais toi, tu as fait également beaucoup, beaucoup de films avec Jean Rouch et pour toi-même, voilà, et avec d'autres. Donc, on mettra une petite biographie pour que les gens puissent aller, ceux qui suivent cette interview, puissent aller ensuite regarder les magnifiques films que tu as fait, tout à fait extraordinaires dans la suite de Jean Rouch. Ben, merci beaucoup, merci Gérard, merci surtout à toi, Bernard, et puis peut-être à bientôt, parce qu'on t'a déjà vu dans des colloques d'hypnose, et nous te réinviterons sûrement. Merci beaucoup, Bernard.
Merci.